Radio.
Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture.
De Villefranche à Tataouine. Chers amis de la Calade, bonsoir. Eh bien, nous nous retrouvons pour une édition spéciale pour ce mois d'avril. Ça vous ne vous aura probablement pas échappé. Donc, nous fêtons un triste anniversaire avec les 30 ans du début du génocide des Tutsis. Alors, je dis bien des Tutsis, puisque effectivement, dans la presse, ou peut-être aviez-vous déjà entendu d'autres manières d'appeler cet épisode de notre histoire très proche, le génocide rwandais, le génocide des Tutsis. Ici, on va préférer plutôt la deuxième manière de dire, puisqu'elle est beaucoup plus respectueuse. Elle permet de bien prendre en compte que c'est un massacre dirigé contre un peuple. Quelques chiffres. Entre donc le mois d'avril et le mois de juillet 1994, entre 800 000 et 1 million de morts. Voilà. Et donc, pour aiguiser un petit peu votre connaissance de cet épisode, non pas que vous n'ayez pas déjà plein de choses en tête, mais simplement pour éclairer avec un peu d'histoire, un petit peu de géographie, puis mais aussi un petit peu de littérature, avec donc mes compères Jeff, Emma et Patrick aux manettes.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Alors justement, moi je vais vous parler du roman Petit Pays de Gaël Faye. Donc c'est un roman qui est sorti en 2016, qui a été multiprimé. Il a eu entre autres le Goncourt des lycéens. Et il raconte donc l'histoire de Gabriel, qui est en quelque sorte le double de l'auteur Gaël Faye. Gaël Faye, il est né en 82. Alors, c'est son histoire, mais quand même bien romancée. Hein. Il y a des choses qui sont changées. Son père est français, sa mère est rwandaise exilée au Burundi avec une partie de sa famille qui vit encore au Rwanda au moment des faits. Et il va nous raconter donc sa vie au Burundi avec son père, sa mère et sa petite sœur. Et nous raconter finalement cette enfance percutée par le génocide. Et je vais vous lire du coup le prologue du roman. Ça commence comme ça. Je ne sais pas vraiment comment cette histoire a commencé. Papa nous avait pourtant expliqué un jour dans la camionnette. Vous voyez, au Burundi, c'est comme au Rwanda. Il y a trois groupes différents. On appelle ça les ethnies. Les Hutus sont plus nombreux. Ils sont petits avec un gros nez. Comme Donatien, j'ai demandé. Non, lui, c'est un Zaïrois, c'est pas pareil. Comme Proté, par exemple, notre cuisinier. Il y a aussi les Toits, les Pygmées. Eux, passons. Ils sont quelques-uns seulement. On va dire qu'ils ne comptent pas. Et puis, il y a les Tutsis, comme votre maman. Ils sont beaucoup moins nombreux que les Hutus. Ils sont grands et maigres, avec des nez fins. Et on ne sait jamais ce qu'ils ont dans la tête. « Toi, Gabriel, » avait-il dit en me pointant du doigt, « tu es un vrai Tutsi. On ne sait jamais ce que tu penses. » Là, moi non plus, je ne savais pas ce que je pensais. De toute façon, que peut-on penser de tout ça? Alors j'ai demandé... La guerre entre les Tutsis et les Hutus, c'est parce qu'ils n'ont pas le même territoire? Non, ce n'est pas ça, ils ont le même pays. Alors, ils n'ont pas la même langue? Si, ils parlent la même langue. Alors, ils n'ont pas le même dieu? Si, ils ont le même dieu. Alors, pourquoi ils se font la guerre? Parce qu'ils n'ont pas le même nez. La discussion s'était arrêtée là. C'était quand même étrange, cette affaire. Je crois que papa non plus n'y comprenait pas grand-chose. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à regarder les nez et la taille des gens dans la rue. Quand on faisait des courses dans le centre-ville avec ma petite sœur Anna, on essayait discrètement de deviner qui était Hutu ou Tutsi. On chuchotait « Lui, avec le pantalon blanc, c'est un Hutu. Il est petit avec un gros nez. » Ouais, et lui là-bas, avec le chapeau, il est immense, tout maigre, avec un nez tout fin. C'est un Tutsi. Et lui là-bas, avec la chemise rayée, c'est un Hutu. Mais non, regarde, il est grand et maigre. Bah oui, mais il a un gros nez. C'est là qu'on s'est mis à douter de cette histoire d'ethnie. Et puis papa ne voulait pas qu'on en parle. Pour lui, les enfants ne devaient pas se mêler de politique. Mais on n'a pas pu faire autrement. Cette étrange atmosphère enflait de jour en jour. Même à l'école, les copains commençaient à se chamailler à tout bout de champ en se traitant de Hutu ou de Tutsi. Pendant la projection de Cyrano de Bergerac, on a même entendu un élève dire « Regardez, c'est un Tutsi avec son nez !» Le fond de l'air avait changé. Peu importe le nez qu'on avait, on pouvait le sentir. Alors voilà, pour enchaîner et continuer de traiter ce sujet aussi sur le plan artistique, on va vous faire écouter la chanson « Petit pays » tirée de l'album de Gaël Faye.
Wapuye, warago weni wagoka, gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guisséni. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunweni wapuye, waragoweni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul, petit pays, pendant 3 mois tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de voyir quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille. Seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warago weni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets quand on s'encanaille. Je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale. À force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis dans ma tête tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope. C'est aimant un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunweni wapuye, waragoweni wagoka.
Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je vis. Petit pays, j'essaye de tes blessures.
Du monde.
Chers auditeurs, vous écoutez toujours Les Couleurs du Monde et notre thème aujourd'hui, c'est le génocide des Tutsis Et Jean-François va nous en expliquer tout de suite les causes profondes.
Oui, bien sûr. Ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est que, loin d'être une explosion soudaine et imprévisible, le génocide des Tutsis a été le fruit d'une longue construction ethno-raciale héritée de la colonisation. Celle-ci aboutit à une idéologie de haine et d'exclusion instrumentalisée par un projet politique vraiment extrémiste. Tout commence donc avec la colonisation. Alors, les Allemands pénètrent au Rwanda à la fin des années 1890. Ce pays est dirigé par un roi et une aristocratie appartenant à une catégorie de la société, celle des Tutsis, perçus comme des éleveurs de gros bétail en opposition à la majorité de la population, les Hutus, perçus comme des agriculteurs. Bon, en fait, la réalité de la société rwandaise est moins simple, les activités étant généralement associées dans des proportions très variées selon les régions. Sans oublier que la masse des Tutsis est de conditions aussi humbles que la masse des Hutus, et que les Hutus accèdent aussi à l'aristocratie, et que tout le monde parle une seule langue, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, le Kinyarwanda, okay. Et partagent les mêmes croyances, la même culture, les mêmes clans, et une histoire commune depuis des siècles. C'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure dans ton extrait. Mais les théories raciales, alors en vogue en Europe, vont venir agiter le Rwanda, notamment porté par le théoricien des races Arthur de Gobineau dans son essai sur l'inégalité des races humaines. Ces théories raciales, elles considèrent que certaines populations africaines seraient supérieures aux autres du fait de métissage avec des envahisseurs venus d'Orient. Les colonisateurs et les missionnaires de l'époque, qui sont imprégnés par ce schéma, définissent aussitôt les Tutsis comme une race de conquérants venus d'Éthiopie imposer une féodalité à la paysannerie Hutu, définie elle comme bantou. Alors bantou, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est authentiquement africaine, et donc inférieure finalement. Ce discours détermine la politique coloniale, qui est d'abord suivie par les Allemands, donc, puis surtout par les Belges, qui vont récupérer le Rwanda après la Première Guerre mondiale et la défaite allemande. Les Tutsis sont jugés d'intelligence supérieure et faits pour gouverner. Ils sont privilégiés dans l'accès aux premières écoles des missionnaires et puis aussi dans le recrutement des auxiliaires de l'administration.
Donc en fait, ils sont privilégiés par les colons.
Par les colons, exactement. Donc ce classement racial est considéré comme naturel. Il est alors perçu comme traditionnel, ce qui n'est pas le cas, hein, comme on l'a vu avant, même s'il rabote en fait la diversité des situations antérieures. Donc il est repris sur les livrets d'identité qu'on va construire, on va définir donc l'ethnie ou Tutsi sur le livret d'identité. Surtout, il est peu à peu intériorisé par les premières générations d'élites instruites, donc les jeunes Tutsi qui se trouvent aussi, ainsi flattés. À l'inverse, les jeunes Hutus, ils sont frustrés et commencent leur colère commence à monter.
En fait, la frustration, elle naît de là, finalement.
Enfin, de la colonisation.
Finalement, c'est ça qui va répandre ce fiel.
Cette haine, ouais,
cette
effectivement.
Cette haine chez les Hutus.
Mmh. Et alors après, on continue, on avance un peu dans le temps. À la fin des années 1950, les élites rwandaises, comme ailleurs en Afrique, sont gagnées par un esprit de revendication qui conduira aux décolonisations. Mais au Rwanda, ce moment était aussi celui d'une scission interne profonde. On insiste à la cristallisation d'un courant politique hutu qui se dresse prioritairement, non contre le colonisateur belge, mais contre les privilèges tutsi. Ce mouvement social, qui s'exprime en mars 1957 dans un manifeste des bas hutus, reprend cependant les discours hérités de la colonisation. Les tutsis sont donc considérés comme une race, pleinement parlant, en fait on parle de race encore à ce moment-là,
d'accord,
susceptible d'être identifiée par des médecins, et le fichage identitaire est considéré comme tout à fait normal. Donc sous la bannière d'une révolution sociale qui va mettre fin aux privilèges d'une minorité tutsi, on assiste au début des années 60 à une simple permutation, cette fois, au profit des Hutus, qui sont présentés non seulement comme le peuple par excellence, mais aussi comme les seuls vrais Rwandais, libérés des envahisseurs féodaux, cette fois, tutsi donc.
D'accord, donc en fait les Tutsis deviennent des envahisseurs au niveau de l'histoire, alors que ce n'est pas le cas.
C'est complètement une réécriture.
C'est une réécriture de l'histoire. Et l'Église va d'ailleurs accompagner tout cela, hein, et va profiter de ce changement. Alors la réussite du mouvement Hutu s'opère par le recours à la violence comme moyen de conscientiser les masses paysannes qui sont au départ peu disposées à se rebeller contre l'autorité monarchique. Hein, ils ont d'autres soucis à se préoccuper.
D'accord.
Ainsi, la révolution sociale qui renverse le pouvoir de la minorité Tutsi au profit du peuple Hutu, qui est, comme tu l'as dit, numériquement très majoritaire, débute à la Toussaint 1959. Et à ce moment-là, plus de 8000 Tutsis doivent alors s'exiler dans les pays voisins du Rwanda, l'Ouganda, le Congo, le Burundi, la Tanzanie,
Burundi,
par exemple.
Comme dans le roman.
Ouais.
Voilà, Burundi, donc le petit pays, justement, de Gallifrey.
C'est ça, le petit Exactement. Pays, c'est le Burundi.
Alors du coup, avec l'accord de la tutelle belge, la République est proclamée et le Hutu Grégoire Kayinbanda est élu président de la République. L'indépendance du Rwanda est ensuite proclamée le 1er juillet 1962. Ensuite, on a une nouvelle phase qui va commencer, surtout en 1963, où les Tutsis vont devenir de véritables boucs émissaires dès qu'il y a des difficultés politiques internes au Rwanda. Et à cette année-là, il y a une crise au sein du parti Parmé Hutu qui va se résoudre dans la violence. Une incursion de réfugiés Tutsis qui sont venus du Burundi dans la nuit du 20 décembre et qui vont aller vers Kigali offre l'occasion donc aux Hutus de massacrer pas mal de cadres, surtout Tutsis, et aussi dans les campagnes de massacrer d'autres Tutsis. Alors les autorités politiques et aussi religieuses locales, elles vont réagir en recourant d'abord à la rhétorique du fait que cette colère elle est légitime, puisque c'est le peuple en colère qui se défend. Il y a de l'autodéfense de ce peuple Hutu contre l'envahisseur Tutsi. Pire encore, dans un discours prononcé le 11 mars 1964 à l'adresse des réfugiés Tutsi, le président Kayibanda prophétisa pratiquement ce qui allait se passer en 1994, puisqu'il menace de disparition l'ensemble de la race Tutsi si les réfugiés tentaient de revenir au Rwanda.
Ouais, donc ça couvait depuis...
Depuis ce moment-là, et ça va encore en fait, monter progressivement. Les Tutsis subissent une nouvelle fois une crise politique en 1973. Alors cette crise, cette fois-ci, elle oppose les élites du nord du pays à celles du centre, qui sont accusées de monopoliser les postes dirigeants. Les politiciens du nord, ils s'imposent par un putsch qui porte au pouvoir le général Juvénal Habyarimana, dont on reparlera tout à l'heure, en juillet 1973. Alors le changement de régime, cette fois-ci, il va être intitulé Révolution morale, et cette deuxième république qui va s'imposer adopte un style plus modéré en apparence. L'accent est mis sur le développement et le Rwanda devient l'enfant chéri des coopérations occidentales. Mais en fait, le régime reste intransigeant sur deux points significatifs, des quotas ethniques et bannissement des réfugiés. Alors, quotas ethniques, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a par exemple seulement 9% des Tutsis qui peuvent accéder aux écoles et aux emplois dans le public ou dans le privé. Et parallèlement, on assiste aussi à la généralisation de la carte d'identité plastifiée qui porte la mention de l'ethnie Hutu ou Tutsi.
On peut parler d'une sorte d'apartheid un peu?
C'est pas exactement ça, mais...
C'est pas une logique de ségrégation géographique.
Ils vivent quand même toujours ensemble.
D'accord. On y reviendra justement. Mais par contre, ils ont des limitations...
En tout cas, on peut savoir qui est Hutu ou Tutsi, et ça va être super important par rapport au génocide, sur la carte d'identité.
D'accord.
Alors, près de la moitié des Rwandais Tutsi, ils sont exilés dans les pays voisins, entre 1960 et 1973. Et en 1990, ces réfugiés de deuxième génération, ils sont quand même 600 000, et ils vont commencer à admettre qu'il n'y a plus de place pour eux, finalement, au Rwanda. Ce qui explique leur mobilisation politique dans un mouvement qui s'appelle le FPR, le Fonds Patriotique Rwandais, qui va lancer une guérilla au nord du pays à partir d'octobre 1990. Et maintenant, on va arriver dans les causes plus récentes, et ça, c'est Geneviève qui va nous l'expliquer.
Je prends le relais. Alors, on va voir si vous avez tout bien écouté. Donc, le 1er octobre 1990, le Front Patriotique Rwandais, donc le FPR, ça c'est vraiment très important, chers auditeurs, il faut retenir cette abréviation, je vais essayer de ne pas vous en mettre plein la tête. Et donc, ce 1er octobre 1990, c'est vraiment le premier jalon de cette mécanique de cause immédiate. Vous l'avez bien entendu, évidemment, les choses ne démarrent pas en 1990, elles sont sous-jacentes depuis une trentaine d'années. Et donc concrètement, qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Eh bien, il se passe que il y a des mouvements du FPR qui est fondé donc quelques années plus tôt par des descendants d'exilés Tutsi qui lancent depuis les pays voisins où ils sont réfugiés des répressions. Et donc là, ça va être l'occasion pour les forces armées rwandaises, les FAR, de trouver un argument en disant, vous voyez, finalement, ces Tutsis-là, de l'intérieur, de l'extérieur, etc., ce sont les mêmes, ils nous menacent, il faut les arrêter. Et donc, il va y avoir des vagues d'arrestations extrêmement violentes, plusieurs milliers de personnes, évidemment, en majorité des Tutsis, mais pas que. On retrouve aussi des personnes qui sont opposées à cette politique qui est menée par les FAR, donc par ces forces armées rwandaises. Et donc, ils sont opposés également à ces massacres systématiques qui sont à proximité donc, des frontières, mais aussi à l'intérieur du Rwanda. Ces tueries, ouais.
Du coup, il y a beaucoup de personnes qui sont arrêtées. Enfin, ils sont quoi? Ils sont emprisonnés?
Donc, en fait, ces personnes, elles sont systématiquement tuées.
D'accord. Ah oui. Okay.
Voilà, c'est vraiment le premier jalon de ce mécanisme de génocide.
On est déjà dans une logique d'élimination, en fait.
Complètement, mais qui était annoncée depuis 1964. Et donc, ces dispositifs meurtriers, donc, qui sont mis en place à partir de 1990, sont ensuite utilisés à grande échelle 4 ans plus tard, en 1994, ce qui veut dire qu'on est vraiment dans une logique presque un peu d'entraînement.
D'accord.
Pour mettre en place, pour tester, pour voir quelles sont les stratégies les plus efficaces, évidemment, entre guillemets, vous l'aurez bien compris. Oui. Donc, il y a une conjonction entre les autorités administratives, les élites locales, mais aussi les citoyens ordinaires, les voisins. L'usage d'un arsenal donc varié avec un système de filtrage de la population, multiplication des barrages routiers, et la présence de certaines pratiques de cruauté, comme le viol public, qui est déjà pratiqué depuis 1990. Donc.
D'accord. Et donc, on viole les femmes tutsies, en fait.
Exactement. Alors, j'y reviendrai après. Les femmes tutsies sont particulièrement victimes d'une campagne de discrimination systématique. Elles sont montrées vraiment comme des charmeuses. Alors, c'est intéressant parce que justement, dans Petit Pays, Gaëlle Faye décrit à un moment donné sa maman comme étant justement une femme extrêmement attirante, des grandes jambes, etc. Ouais. Et en fait, une fois qu'on connaît un peu mieux cette histoire du génocide tutsi, on comprend mieux qu'en fait, il décrit en même temps, il rend hommage à sa mère, mais il met aussi en avant toute cette imagerie inconsciente,
qui est complètement fabriquée
et qui est relayée par les médias. Donc, dès 90, on voit bien que c'est le début d'une guerre civile. Pour les Européens, quelle est leur vision des choses? Tout simplement, c'était un trouble interethnique, spontané. C'est lié à ces oppositions, et cette opposition va finir par se réguler. Donc, finalement, surtout, n'intervenons pas.
Et juste pendant très longtemps, on a entendu parler du génocide rwandais.
Alors, c'est... Ouais.
Je vais trop vite.
C'est prévu.
D'accord, je te laisse faire.
C'est
alors.
Prévu. Donc, c'est dans les années qui suivent, chaque mouvement donc, du FPR, du Fonds Patriotique
Rwandais.
Bien, bravo. Je rappelle, donc, cette armée qui est composée de Tutsis à l'extérieur du pays donne lieu donc, à des tueries de Tutsis, en revanche, en quelque sorte, à l'intérieur des frontières. Donc, il y a vraiment une mécanique aussi systématique de répression. Oui. Et on part du principe aussi dans les médias que le FPR et les Tutsis sont forcément de connivence et vous ne pouvez pas être Tutsi et défavorable, par exemple, à cette action violente.
D'accord.
Voilà. Donc, tous sont soupçonnés de complicité et c'est ainsi, c'est leur race, en fait. Hein. Là encore, évidemment, je mets les guillemets, hein, c'est les propos de l'époque. Et puis, ils sont pervers, ils en volent haut ou tout et leurs femmes, justement, sont des prostituées à la solde du FPR. Et
d'accord.
Donc, évidemment, il faut les humilier, il faut les violer pour, justement, tordre le cou à leur charme qui sont d'autant plus menaçants et pour, justement, les vrais Rwandais, les Bantous. Pendant 4 ans, donc, la population est exposée à un abattage médiatique intense. Je peux citer, par exemple, très populaire à l'époque bimensuelle Kangoura, les radios, et notamment la radio-télévision libre des Mille Collines, qui est aussi citée dans Petit Pays. Et donc, cette radio relaye avec la presse écrite un discours de haine. Ils évoquent notamment des rumeurs de complots tutsis contre lesquels les Hutus sont appelés en masse à se mobiliser. Des paroles, mais aussi des actes. Hein. Les Hutus sont galvanisés, ils sont appelés à se mobiliser également dans les actes. Un programme d'autodéfense civile se déploie progressivement sous la responsabilité conjointe des autorités administratives locales, des policiers, et une milice se met également en place.
Donc en fait, on a vraiment conjointement les médias et le régime politique qui agissent pour aller mener ce génocide.
La mécanique est en place.
Très bien.
À ce stade, donc, rappelons que Hutu et Tutsi se partagent pays, langue, histoire, on l'a vu tout à l'heure. On a entendu aussi cette très belle langue, hein, le kinyarwanda, qui est celle qui est utilisée par le musicien qui donne la réplique à Gaëlle Faye. Aucun différent ne les oppose. Les familles sont métissées. Alors là aussi, hein, il faut évidemment avoir une vision très, très relative. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des familles Hutus et que des familles Tutsis. Hein, il y a bien entendu des métisses. Et tous ces gens, surtout, sont voisins, en fait. Ils se connaissent. Ils sont amis. Et évidemment, on ne s'en prend pas à son ami. On le connaît bien. Par contre, la presse va également mener toute une campagne de destruction de cette image des Tutsis, qui sont donc montrés systématiquement de manière caricaturale. Et c'est cette construction de l'autre qui va commencer à semer cette haine. Et donc cette construction, elle repose toujours sur des comparaisons, c'est-à-dire que les Tutsis sont assimilés à de la vermine, à des cafards. Et donc, évidemment, autant on ne s'en prend pas à son voisin, autant un cafard, c'est moins gênant de l'éliminer. On l'écrase, puisqu'il nous met en danger. Donc, il y a cette idée aussi que les Tutsis vont être montrés systématiquement comme des choses, comme de la vermine, comme des animaux. Et ça, évidemment, c'est quelque chose que l'on retrouve aussi dans la propagande nazie. Voilà, c'est vraiment ce deuxième élément qui met en avant donc, ce mécanisme de génocide. En résumé, donc, si on amplifie un sentiment de peur, les attaques du FPR, on transforme le Tutsi en cafard. Et parallèlement, en fait, François Mitterrand, qui, là, je fais un peu une incursion d'un changement de pays, mais donc la France a également un rôle très important, malheureusement, à jouer dans toute cette histoire, puisque François Mitterrand demande à ce qu'il y ait quand même davantage de démocratisation dans cette vie politique rwandaise. Et donc, il va demander notamment à légaliser le multipartisme, il va demander l'intervention de troupes militaires pour former sur place la police, etc. Et donc, on pourrait se dire, vu sous cet angle, que c'est plutôt bien. Sauf qu'en réalité, ça va se retourner et le président de l'époque va utiliser encore un peu plus ce processus pour donner sa voix à toute la haine, à un jeu politique de plus en plus radical et des meetings politiques qui incitent vraiment à des tueries collectives et qui sont d'autant plus violentes qu'elles sont protégées par ces fameuses milices qui sont donc formées en partie par des militaires étrangers.
Et donc, en fait, ça donne du grain à moudre, finalement, au parti, c'est ça les milices forment les militaires, mais dans le même temps, ils sont en train de dire que ces milices, elles sont là...
Non. En fait, ces milices, elles soutiennent le FPR, en fait.
Oui, c'est ça.
Puisque, mais ça, c'est quelque chose qu'on verra aussi après dans le fonctionnement de ces génocides, et puis surtout aujourd'hui, quels sont les responsables de ces faits. Et on verra notamment que François Mitterrand a une action extrêmement
négative
merci, dans toute cette page d'histoire. Alors, j'avance un petit peu dans le temps. Jusqu'en 1994, donc il va y avoir un troisième élément qui va mettre véritablement le feu aux poudres, avec donc un attentat qui est perpétré donc le 6 avril 1994, qui entraîne la mort donc du président Juvenal Habyarimana, donc qui est le président du Rwanda, mais aussi de Cyprien Ntaryahama, qui est président du Burundi. Cet attentat, en fait, encore aujourd'hui, on ne sait pas qui l'a perpétré. Voilà, il y a des enquêtes qui ont été menées qui n'ont abouti à rien. Quoi qu'il se passe, en tout cas, cet attentat provoque donc la mort de ces deux présidents, mais aussi de 10 autres occupants. Et c'est la première phase, en fait. C'est la phase de lancement d'un coup d'État qui déclenche le massacre des partisans, des personnes qui sont montrées contre les forces militaires rwandaises. Et donc, c'est le début, malheureusement, de ce génocide et de la reprise en parallèle de la guerre civile.
Alors justement, avant que Jean-François nous parle du génocide, je vais vous lire un extrait qui reprend un petit peu, enfin qui illustre en tout cas ce que tu nous as dit.
Avec les mots de Gaël Faye. Ouais.
Avec les mots de Gaël Faye dans Petit Pays. Je vous lis l'extrait. À l'école, les relations entre les élèves burundais avaient changé. C'était subtil, mais je ne m'en rendais pas compte. Il y avait beaucoup d'allusions mystérieuses, de propos implicites. Lorsqu'il fallait créer des groupes en sport ou pour préparer des exposés, on décelait rapidement une gêne. Je n'arrivais pas à m'expliquer ce changement brutal, cet embarras palpable. Jusqu'à ce jour, à la récréation, où deux garçons burundais se sont battus derrière le grand préau, à l'abri du regard des profs et des surveillants. Les autres élèves burundais, échauffés par l'altercation, se sont rapidement séparés en deux groupes, chacun soutenant un garçon. « Sale Hutu !» disaient les uns. « Sale Tutsi !» répliquaient les autres. Cet après-midi-là, pour la première fois de ma vie, je suis entrée dans la réalité profonde de ce pays. J'ai découvert l'antagonisme Hutu et Tutsi, infranchissable ligne de démarcation qui obligeait chacun à être d'un camp ou d'un autre. Ce camp, tel un prénom qu'on attribue à un enfant, on naissait avec. et il nous poursuivait à jamais. Hutu ou Tutsi. C'était soit l'un, soit l'autre. Pile ou face. Comme un aveugle qui recouvre la vue, j'ai alors commencé à comprendre les gestes et les regards, les non-dits et les manières qui m'échappaient depuis toujours. La guerre, sans qu'on lui demande, se charge toujours de nous trouver un ennemi. Moi qui souhaitais rester neutre, je n'ai pas pu. J'étais née avec cette histoire, et elle coulait en moi. Je lui appartenais. Alors, vous voyez que, vraiment, hein, l'enfance de Gabriel est, comme on l'a dit tout à l'heure, vraiment percutée de plein fouet par ce génocide dont Jean-François va vraiment nous expliquer maintenant les différentes phases et le déroulé.
Ok. Ben, comme l'a dit Geneviève, effectivement, à partir du 6 avril, assassinat du président. Et donc, dès le 7, ça commence, le génocide va commencer, puisque les militaires extrémistes vont prendre le pouvoir et vont passer à l'action. Donc, le 7 avril, les personnalités Hutu modérées sont dénoncées comme des traîtres et sont assassinées par des hommes de la garde présidentielle et de l'armée. La première ministre, elle va être tuée à son domicile, par exemple. Des casques bleus belges de la Minuar qui étaient chargés de sa protection sont enlevés et massacrés dans le camp militaire de Kigali. La Belgique alors décide d'évacuer ses troupes et ses ressortissants. Le retrait international va se poursuivre ainsi jusqu'au 21 avril. Pourtant, dès le 7 avril, ceux qui sont sur place, ils ne peuvent pas ignorer la réalité des massacres systématiques commis contre les Tutsis. Le 8 avril, il y a deux observateurs militaires polonais qui sont membres de la Minuar, de l'action des Nations Unies, sont contraints, pistolets sous la gorge, hein, d'assister à la tuerie de centaines d'hommes, de femmes et d'enfants tutsis réfugiés dans l'église de Gikondo, un quartier de Kigali. Et là, on peut voir qu'il y a un seuil de violence qui est franchi, puisque précédemment, dans les persécutions contre les Tutsis et les massacres contre les Tutsis, les églises demeuraient des havres de paix, des lieux de refuge. Et là,
Même ça, ils passent.
D'ailleurs, il y a 40% des victimes qui ont été assassinées au sein d'édifices religieux dans un pays qui était quand même à 90% chrétien.
Catholique.
Ouais. Donc voilà en détail ce qu'ont pu voir les observateurs polonais, c'est pas très joli. Les réfugiés sont d'abord entassés dans l'église sous la garde de gendarmes qui prennent soin de vérifier leur carte d'identité, puisqu'on sait maintenant si c'est Hutu ou Tutsi.
Ils sont identifiés.
Ainsi, ils peuvent épargner les Hutus qui seraient mêlés à la foule. Les Tutsis sont alors assassinés à la grenade et à la machette par des miliciens au sein même de l'église. De telles scènes se répètent dans tout Kigali, qui est l'épicentre à ce moment-là du génocide alors en marche. Ces informations ne vont pas empêcher les pays occidentaux de retirer leurs troupes et de laisser faire, en fait. Ils vont laisser le Rwanda et les Tutsis à eux-mêmes. L'État rwandais investit alors dans toutes ses ressources au service de l'extermination des Tutsis. Un nouveau gouvernement va être mis en place le 9 avril. Il rassemble des personnalités qui sont issues des factions qu'on appelle Hutu Power, donc vraiment extrémistes Hutu, qui essayent de respecter en apparence seulement les termes des accords d'Arusha qui voulaient du multipartisme. Cet État s'emploie à relier auprès des autorités locales le nouveau mot d'ordre qui est meurtrier. De son côté, l'armée, elle mobilise l'essentiel de ses troupes dans les massacres, alors qu'en même temps, quand même, elle est en guerre contre le FPR. Donc elle préfère massacrer les Tutsis plutôt que se battre contre le FPR.
D'accord.
Le génocide se déroule donc dans le même temps que la guerre. Alors l'ampleur, les circonstances et la simultanéité des massacres ne laissent aucun doute sur leur préparation vraiment minutieuse. C'est pour ça qu'on peut vraiment parler de génocide, hein, c'est préparé. Ainsi, dans la préfecture de Kibwe, qui est située dans l'ouest du pays, sur les rives du lac Kivu, entre les 15 et 18 avril, il y a eu 4 tueries massives qui se sont succédées au cœur de 3 centres religieux et dans un stade, qui ont fait plusieurs dizaines de milliers de victimes. Alors les modalités sont toujours les mêmes. Les Tutsis des collines environnantes se sont réfugiés dans ces lieux, après que leur maison ait été incendiée, leur bétail radié. Parfois, ce sont même les autorités locales qui les ont encouragés à se rassembler. Ils sont d'abord privés vraiment de nourriture et d'eau afin de les affaiblir et d'éviter qu'ils se rebellent. Des gendarmes sont censés assurer leur protection, mais en fait, ils sont là pour éviter tout mouvement de panique,
pour
les parquer, c'est ça. Ainsi concentrés, vraiment dans un même lieu et sous surveillance, les réfugiés sont assassinés en masse à une date fixée par l'administration locale. Les préfets, les bourgmestres, les maires si vous préférez, les conseillers de secteur et les autorités religieuses, elles cautionnent le massacre par leur présence, ils sont là, ils encouragent même ces massacres. Alors parmi les tueurs, ils se mêlent à la fois militaires et civils. La gestion des cadavres atteste également de l'organisation vraiment administrative du génocide. Les préfets font là la preuve de toutes leurs compétences. Ils mobilisent les rares camions bennes et tractopelles qui sont à leur disposition afin de rassembler les corps à l'abandon, les enterrer dans des très larges fosses communes. Ainsi, à Kigali, à la fin du mois d'avril, il y avait 67 000 cadavres qui sont rassemblés en 24 heures seulement. Et Kigali comptait alors plus de 200 000 habitants. Et un quart de sa population a été exterminée en quelques semaines. Cette intensité meurtrière, elle va se vérifier sur l'ensemble du territoire. Alors, le déploiement massif des violences sexuelles représente également un franchissement de seuil inédit dans l'histoire du Rwanda. Geneviève avait commencé d'en parler. Les viols auxquels les femmes tutsies ont été systématiquement soumises répondaient à une logique vraiment d'extermination. Alors, ils s'inscrivaient dans un programme de cruauté qui organisait la dégradation des victimes avant leur mise à mort, quand ils n'ont pas tout simplement été immobilisés comme une arme lorsque les violeurs ils inoculaient quand même intentionnellement à leurs victimes le virus du sida. On peut parler ici de 200 000 viols environ qui ont été perpétrés. Et 67% des femmes violées ont été intentionnellement contaminées par le VIH. Et ce qui est triste, c'est que certaines de ces femmes ont eu des enfants, et à peu près 5 000 enfants sont nés de ces viols. Ce qui, voilà. Ouais. Alors, si les structures étatiques se sont révélées essentielles, le génocide n'aurait pas atteint une telle ampleur sans l'implication d'une large frange de la population civile et sans la mobilisation de ce peuple hutu qui était très majoritaire, encourageait à mener une guerre définitive contre l'ennemi tutsi. Sur les collines, donc, c'est le voisin en fait, qui a tué, comme l'a écrit Hélène Dumas dans son « Génocide au village », qui a été publié en 2014, si vous voulez le lire, il est très, très bon livre. Alors, cette dynamique vraiment horizontale des massacres, celle qui traverse donc, ces petites sociétés des collines, des quartiers et parfois même des familles, c'est une des singularités de ce génocide, car c'est bien un génocide de proximité. Sur les collines rwandaises, Hutu et Tutsi ne formaient pas vraiment des communautés séparées, comme on l'a vu, et la vie sociale était faite de partage, du travail des champs ensemble, d'échanges de vaches, de fêtes communes. Et pourtant, 60% des victimes, elles ont été assassinées par des proches sur les collines, dans ces collines. Alors là, les cartes d'identité, on n'en avait pas besoin, puisqu'on savait exactement depuis longtemps ce qui était Hutu, qui était Tutsi. Les conditions du massacre des enfants rendent également compte du fonctionnement implacable du génocide. Donc c'est sur la base d'une certaine confiance initiale que parfois les parents ils essayaient de sauver en fait leur enfant en leur confiant à des Hutus, mais les Hutus allaient jusqu'à trahir cette confiance et assassiner parfois même eux directement les enfants. Alors ennemi, les Tutsis sont rangés comme des animaux, ils sont parqués comme des animaux, comme on l'a vu. Ils sont considérés comme des animaux, comme l'a dit Geneviève. Et on procède à une sorte de chasse presque, à l'utiliser comme des gibiers. Et tous ces massacres, ils exigent vraiment une adhésion unanime. Ceux qui ne sont pas d'accord avec les massacres, ils sont soit massacrés avec les protégés, soit contraints à les assassiner eux-mêmes. Tuer, finalement, devient presque un travail. D'ailleurs, l'action de tuer est désignée sous le terme « gukora » en Kinyarwanda, ce qui signifie « travailler ». De même, les armes sont souvent appelées « ibi », enfin, je ne vais pas vous le dire, mais grosso modo, le mot veut dire « outil ». Et souvent, en fait, on utilise les outils agricoles pour assassiner. Donc, ce n'est pas vraiment le génocide de la machette, comme on peut souvent l'entendre. C'est plutôt le génocide des outils agricoles, mais aussi des arcs, des flèches, des lances et des mitraillettes, bien sûr, lorsque les soldats en avaient.
En fait, la mort est complètement banalisée à ce moment-là.
Exactement. Donc, la férocité déployée par ses voisins bourreaux demeure au cœur des souvenirs des survivants. Elle représente pour eux vraiment la singularité irréductible du génocide. Donc, il va falloir attendre la victoire du FPR à partir du 4 juillet 1994, qui va prendre Kigali pour mettre fin à tous ces massacres et à tout ce génocide.
Merci Jean-François. Ouais. Et on va enchaîner sur TV de Gaël Faye.
Même au
fin fond de mon petit pays, je regardais ma lucarne. Les convulsions du monde nous parvenaient comme un lointain vacarme. Souvent la télé se partageait avec l'ensemble du voisinage. La mondovision canapé transforme le globe en un village. Effraction de l'imaginaire, partageons tous la même doxa. Roger Mila en coupe du monde et le monde danse le Makossa. La guerre du golfe de Mr. Bush avant fiston, y'avait papa. Et je matais le pillage des pipelines en bouffant mes papas. Et nous étions tous ces mêmes gamins rêvant d'entrer dans la Dream Team. Malgré l'arceau dans mon jardin, j'ai jamais vu Patrick Ewing. Je me suis accroché à des rêves souvent très loin de mon quotidien. Je connaissais bien moins ma culture que le western hollywoodien. On pensait tenir aucun rôle dans le programme de leur feuilleton. Mais un jour en Gaule à la Baule, y a eu le discours de tonton. Démocratie, multipartisme, fallait ranger les pistolets. Comme rien n'est simple, la guerre a éclaté. J'ai éteint ma télé, c'est cool, c'est cool. Ma jeunesse, c'est cool, c'est cool. Entre un mur qui tombe et deux tours qui s'écroulent. Pendant qu'on se débattait dans une fournaise, les autres nous regardaient, assis en charentaise, à se demander y'a quoi à la télé. C'est quoi ces peuples qui crient à l'aide entre le fromage et le dessert? L'humanité est plus fragile qu'une orchidée dans le désert. Et quand le drame est bien trop grand, il se transforme en statistique. Et les Didi a plus de poids qu'un million de morts en Afrique. L'ignorance est moins mortelle que l'indifférence aux sanglots. Les hommes sont des hommes pour les hommes et les loups ne sont que des chiots. Alors on agonise en silence, dans un cri sans écho. Et même si la technique avance, elle ne changera pas la déco. On a grandi avec le poids de nos démons sur le roc des coteaux. Alors donnez-nous des mots pour qu'on vous change la photo. Pour qu'on écrive à hauteur d'homme ce que la télé ne montre pas. Les battements du cœur de mon âme est une info qui ne ment pas. Je venais d'Afrique mais sans connaître Kouchner et puis son sac de riz. J'ai débarqué un soir d'hiver ici avec mon sac de riz. C'est cool, c'est cool. Ma jeunesse, c'est cool, c'est cool. Entre un mur qui tombe et deux tours qui s'écroulent. J'ai perdu mon jardin d'Éden où je me nourrissais de mangue. Je suis prisonnier de mes chaînes vu qu'ici la télécommande. Je l'ai rallumé dans un trois pièces de cet immeuble surchauffé. Je l'ai entretenu comme le feu parce que dehors je me l'ai congelé. Loin dans mon exil, je zappe ceux qui ont pris ma place. Et quand on joue sur leur terrain, c'est souvent rare qu'on te remplace. Je fais une pause, le temps d'une pub Coca-Cola insérée entre un mur qui tombe et la sortie de Mandela. On a vécu en continu comme un flot d'informations. Et je me suis perdu dans ma rue sous un amas de béton. Les souvenirs de ma vie se mélangent à toutes ces images diffusées. Vivre hors champ de la caméra, c'est souvent ne pas exister. On nous gaffe d'images à satiété, de sexe, de fric et de faucheuses. Alors j'écris des textes comme un écho de nos vies silencieuses. Sur leur écran, on est des bouts de pixels perdus dans la foule. Et nos vies s'écoulent, cool, pendant que le monde s'écroule. C'est cool, c'est cool. Ma jeunesse, c'est cool, c'est cool. Entre un mur qui tombe et deux tours qui s'écroulent.
Vous écoutez Les Couleurs du Monde et nous allons arriver sur cette dernière partie de l'émission sur le génocide des Tutsis avec cette question et aujourd'hui. Et Jean-François va nous expliquer le procès qui a eu lieu par le Tribunal pénal international pour le Rwanda. On t'écoute Jean-François.
Oui, je vais vous montrer un petit peu que finalement, le génocide des Tutsis du Rwanda est sans conteste le crime de masse le plus jugé de l'histoire et par des cours de justice différentes, pas seulement par le Tribunal pénal international pour le Rwanda, mais notamment. Donc on va commencer par lui, qu'on appelle le Tribunal d'Arusha, puisque à la fin du génocide, le Rwanda n'avait plus d'infrastructure étatique, hein, ni école, ni hôpitaux, ni tribunaux, le pays était vraiment ruiné. Le Tribunal pénal international pour le Rwanda, qu'on appelle le TPIR, je dirais peut-être le TPIR plus facilement ensuite, est alors créé par le Conseil de sécurité de l'ONU le 8 novembre 1994. Il va être fermé, ses travaux vont se terminer le 31 décembre 2015. Alors il est localisé à Arusha en Tanzanie parce qu'au Rwanda il n'y a plus d'infrastructures pour l'accueillir. Il a pour objectif de poursuivre en justice les idéologues du génocide, les ministres du gouvernement génocidaires et ceux qui ont encouragé les massacres. Donc c'est vraiment les grands pontes, si vous voulez, qui vont être jugés ici. Alors, il est construit sur le modèle du Tribunal pénal international pour la Yougoslavie, qui a été créé un an plus tôt. Alors, le problème, c'est que ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie, ce n'est pas ce qui s'est passé au Rwanda. Donc, les problématiques ne sont pas les mêmes. Pour autant, le TPIR a copié vraiment la façon de faire du Tribunal pénal international pour la Yougoslavie. Donc, c'était une de ses limites. Alors, le TPIR, il a jugé et condamné plusieurs personnalités éminentes, notamment l'ancien premier Premier ministre Jean Kambanda, l'ancien chef d'état-major de l'armée, le général Augustin Bissoumungu, et l'ancien directeur de cabinet du ministère de la Défense, le colonel Théoneste Bagosora. Alors, en tout, le TPIR, il a inculpé 93 personnes. Il en a condamné 61 à des peines de prison à vie et en a acquitté 14. Et surtout, il a contribué à établir la vérité sur l'organisation du génocide au Rwanda et à rendre la justice aux victimes. Toutefois, malgré tout, le TPIR, il a suscité des critiques, en particulier de la part des Rwandais, notamment parce que... Ils ont jugé un manque de réparation pour les victimes et le fait que le tribunal était situé en dehors du Rwanda. Le nombre relativement réduit d'affaires traitées par le tribunal et son coût opérationnel qui est très élevé, ainsi que ses processus très bureaucratiques et la longue durée des procès ont constitué d'autres critiques assez récurrentes. Mais le plus grand échec du TPIR, finalement, c'est peut-être son refus d'engager des poursuites pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis en 1994 par le Front patriotique rwandais, le FPR, les Tutsis qui ont gagné la guerre, qui demeure depuis d'ailleurs le parti au pouvoir au Rwanda. Alors en effet, lorsqu'elles se sont emparées du pays en 1994, les troupes du FPR ont tué des milliers de civils, Hutus pour la plupart. Même si l'ampleur et la nature de ces meurtres n'étaient pas équivalentes ni comparables au génocide des Tutsis, les victimes et leurs familles ont elles aussi droit à la justice. Alors que le TPIR avait un mandat clair quand même pour juger ces crimes, aucune affaire concernant le FPR n'a fait l'objet de poursuites devant le TPIR.
Est-ce qu'on sait pourquoi ?
C'est surtout politique pour permettre la reconstruction du Rwanda avec le FPR au pouvoir et Paul Kagame, le dirigeant principal. Surtout lié à cela, je pense.
D'accord.
Alors sur le territoire rwandais, il a fallu du temps pour établir un système judiciaire, former des juges et faire revenir des avocats qui étaient partis en exil. En 1998, on a estimé qu'au rythme de la justice de l'époque, il faudrait quand même 200 ans pour juger les accusés qui s'entassaient par centaines de milliers dans les prisons rwandaises. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Les autorités, elles ont proposé de relancer ce qu'on appelle les gachacha, ça veut dire gazon en Kinyarwanda, s'inspirant des anciennes assemblées dans lesquelles les sages des villages réglaient les conflits et les contentieux assis sur les pelouses directement dans le village. Ce qui sera effectué sur l'ensemble du territoire rwandais en 2005. Alors voilà comment Paul Kagame, l'ancien chef du FPR et le président du Rwanda depuis 2000, mais en fait au pouvoir depuis 1994, justifiait cette décision. Nous avions trois choix. Le premier, le plus dangereux, était le chemin de la revanche. Le deuxième était celui d'une amnistie générale. Nous avons choisi la troisième voie, la plus difficile, celle consistant à traiter la question une fois pour toutes et à rétablir l'unité et l'intégrité de la nation. Des citoyens, alors, dans les gachachas sont sélectionnés par des communautés de secteur pour leur bonne réputation et leur intégrité. Chaque gachacha doit comprendre un juge suprême, un vice-président, un secrétaire et cinq juges, mais il n'y a pas de procureur, il n'y a pas d'avocat. Ils reçoivent quand même une formation assez rapide de 2 semaines sur l'histoire du Rwanda, les racines du génocide, l'influence des colonisateurs belges surtout, et ainsi que quelques notions juridiques. Alors les tribunaux, ils vont suivre les lieux des massacres, ils vont se tenir donc à ciel ouvert. Comme le génocide, cette justice des gachacha est massive, délocalisée au niveau des collines, et elle est aussi une justice des voisins, comme le génocide fut un génocide des voisins. Selon les données du gouvernement rwandais, c'est quelques 12 100 tribunaux populaires qui ont permis de juger près de 2 millions de personnes de 2005 à 2012, avec un taux de condamnation de 65%. Alors la plupart ont été condamnés à des peines alternatives à l'emprisonnement et sont retournés vivre sur leurs collines. Aujourd'hui, près de 40 000 personnes purgent encore une peine, trois fois moins qu'en 1999, où quand même avec plus de 120 000 prisonniers qui attendaient leur jugement, le Rwanda détenait le record mondial de densité carcérale.
Triste record.
Oui. Le but des Kachacha était vraiment de réconcilier les gens, d'être le plus juste possible afin qu'ils réapprennent à vivre ensemble. Cet objectif, bon, forcément, ce n'est pas parfaitement atteint, mais certains parlent quand même du miracle rwandais pour qualifier le sursaut spectaculaire du pays ces 30 dernières années. Mais il faut quand même s'imaginer vivre, cohabiter avec l'ancien de ses bourreaux de ses parents, par exemple, dans un village. Enfin, pour terminer, on peut parler des procès de suspects de génocide rwandais qui se sont également tenus devant des tribunaux nationaux de plusieurs autres pays, grâce à ce qu'on appelle le mécanisme de la compétence universelle, qui permet aux juridictions du monde entier de juger certains crimes. C'est le cas par exemple en France, qui a si très tardivement, alors seulement en 2014, connu son premier procès lié au génocide. C'était celui de Paul Simbingangwa, un ancien membre des services de renseignement rwandais qui a écopé de 25 ans de prison.
D'accord. Merci Jean-François. Et du coup, Geneviève, tu vas compléter avec le rôle de l'ONU et de la France.
De la France et surtout de bien mettre aussi en relief l'actualité. Le 7 avril 2024 ont eu lieu les commémorations à Kigali. Donc Emmanuel Macron était invité à ces commémorations. Pour autant, il ne s'y est pas rendu. Mais il a fait un discours par communiqué télévisé, enfin filmé plus exactement, qui a été un petit peu surprenant, qui a été diversement apprécié, mais que je vais vous laisser, chers auditeurs, juger par vous-même. Donc, il a expliqué que finalement, la France aurait pu arrêter ce génocide, mais qu'elle n'en a pas eu la volonté. Paul Kagame, qui est donc le président actuel, qui a aussi été vraiment l'acteur principal, l'artisan de cette sortie de guerre civile, n'a jamais demandé à la France quoi que ce soit, en fait. Il n'a jamais demandé d'excuses officielles pour l'ensemble des faits dont je vais vous parler. Pour autant, c'est intéressant de se dire que s'il ne le fait pas, c'est parce qu'il considère que c'est à la France à faire aussi ce travail mémoriel et ce travail qui a été confié notamment par Emmanuel Macron, à Vincent Duclerc, qui est un historien qui a du coup eu accès à un ensemble d'archives très conséquents qui ont été pour la peine déclassifiées et qui mettent en avant vraiment un aveuglement continu, hein, c'est son expression du dirigeant François Mitterrand à cette époque, qui est un ami personnel du président rwandais Hutu, Habyarimana. Ils sont amis intimes. Le fils aîné de François Mitterrand est également un ami très proche du fils aîné de Juvénal Habyarimana. Ils se rencontrent régulièrement. Et le fils aîné de François Mitterrand est également responsable, en fait, des affaires africaines. Donc, il y a une espèce de la part de François Mitterrand, il y a vraiment cette volonté de garder sous le couvercle tous les faits, tout ce qui se passe, parce qu'il a été prévenu, parce qu'il y a quand même eu des témoignages. Il y a eu notamment de la part de l'ambassadeur présent à Kigali au moment des faits de ce génocide, qui a plusieurs fois alerté sur les dangers d'une telle proximité entre ce pouvoir génocidaire et l'autorité française. L'ONU a également alerté, les personnes qui étaient des militaires qui ont également écrit des rapports. Et à chaque fois, en fait, ces personnes sont un peu montrées du doigt comme étant stupides, qui ne comprennent rien à cette affaire africaine, à cette histoire africaine. Et du coup, Vincent Duclerc, donc l'historien qui a mené ces travaux, mais au premier rang des facteurs explicatifs de cet aveuglement, eh bien tout simplement le dogmatisme idéologique de François Mitterrand et des décideurs qui l'entourent. En particulier, le fait qu'il n'y a aucune prise en compte de la réalité politique et sociale du Rwanda. On reste vraiment sur une grille de lecture ethniciste, racialiste. On est vraiment dans une logique encore très colonialiste. La plupart des conflits, selon eux, sur le continent, sont avant tout des conflits ethniques, séculaires. Et le conflit rwandais, est analysé non en termes politiques, mais en termes ethniques. Et d'ailleurs, l'expression qui est utilisée, principalement donc de génocide rwandais, est en réalité un propos négationniste. Et c'est une forme aussi de négation donc de la réalité de ce qu'ont vécu les Tutsis. Parce que c'est de dire génocide rwandais, ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend qu'en fait, eh bien, les Tutsis se sont eux aussi rendus coupables d'actions contre les Hutus. Donc finalement, les Hutus ont riposté et c'est tout.
Mais on a même parfois entendu parler de guerre civile, ce qui est complètement à côté de la plaque. Hein.
Pour le coup, il y a quand même, les deux sont en parallèle. Hein. Il y a une guerre civile et le génocide.
Sauf que le génocide est parfois assimilé complètement à la guerre civile.
C'est deux choses sont en parallèle.
Oui, oui. Mais parfois, dans les discours, c'est...
Alors, évidemment, dans les discours, il n'y a pas cette volonté de vouloir rendre les choses plus distinctes, tout simplement parce qu'en fait, cette caricature, elle est très commode.
Bien sûr.
Voilà. Et il y a d'autres causes à cet aveuglement. Le deuxième, c'est que ce Rwanda parle le français de façon officielle. Et donc, c'est un petit peu le fer de lance de la francophonie pour François Mitterrand. Donc, encore une fois, maintenir cette influence de la politique française sur la manière dont est gérée la politique du gouvernement en place au moment du génocide, ben, c'est aussi une manière de dire qu'on garde la main mise sur ce pays qui parle la langue française. Troisième raison, et non des moindres, il me reste une minute. Je ne sais pas si je vais réussir à tout dire en une minute. Je vais essayer de rassembler mes idées. On pourrait dire que, en fait, la politique française va, et notamment la mise en place de la cohabitation, va amener deux nouvelles personnes qui vont réussir, du coup, à changer un petit peu le point de vue des militaires présents sur place et le point de vue des décideurs politiques. Évidemment, Paul Kagame, lorsqu'il prend le pouvoir en juillet 1994, va mettre en place aussi une politique qui va permettre à nouveau de reconstruire cet État. À ce moment-là, Kagame met en avant que cette politique française est délétère et que effectivement les Français étaient prévenus, enfin en tout cas les administrations françaises l'étaient. Elles ne l'ont pas arrêté à cause de cet aveuglement. J'espère que vous l'aurez compris. Et donc quelque part Emmanuel Macron aujourd'hui par ses propos tient à mettre en avant donc la France a fait ce travail de recherche dans les archives et des procès ont lieu également en France, puisque les tribunaux sont
compétents
en la matière, merci Jeff. Et même si, malheureusement, surchargés et pas aussi efficaces que la tâche et ce devoir de mémoire serait en droit de demander.
Merci à vous deux pour ces explications sur le sujet. Et à la prochaine fois.
Talade. Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture.
De Villefranche à Tataouine.
Sur le 100.9 et radio-calade.fr.